premier sur l'info, le journal présenté par Cédric Vallax.
C'est parti pour le journal, Cédric, bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. Le Tawera a perdu des militants, c'est ce qu'a concédé Marcel Touyani qui organisait hier un déjeuner de presse pour faire le point sur la récente actualité politique. On en parle en début de journal. Une actualité politique qui se déplace à l'Assemblée aujourd'hui. Les représentants auront à se prononcer sur le cadre juridique qui encadre le schéma directeur des transports interinsulaires. Un texte déjà retoqué à deux reprises, mais qui après avoir été amendé, devrait passer avec le soutien du Tawera. Nous parlerons également environnement avec la délégation sénatoriale à l'Outre-mer qui a vivement critiqué l'impact du projet aquacole de Hao. Une délégation sénatoriale dont Lana Tetuanui et Nui Holore font partie, mais nos deux sénateurs contestent ces critiques. Environnement toujours, mais aussi économie avec le cluster maritime de Polynésie française qui organisait son premier Buffett Networking au sujet de la pêche hauturière. C'était hier. À cette occasion, l'ONG Pew a présenté son rapport sur les stocks halieutiques, la pêche hauturière et la conservation en Polynésie française. Pew qui recommande la mise en place d'aires marines protégées, justement pour protéger nos ressources.
Et de la politique donc pour commencer, et Marcel Touyani qui reconnaît la perte de militants au Tawera.
C'était hier au cours d'un déjeuner de presse. Le président de l'Assemblée, mais aussi président délégué du Tawera, est revenu sur le rassemblement politique d'Edouard Fritsch ce week-end. Dubitatif, il s'est dit surpris qu'aucune création de parti n'ait encore été officialisée. Mais Marcel Touyani a tout de même avoué que cette division avait bouleversé le Tawera et que plusieurs militants avaient quitté le parti orange. Mais il l'affirme, le parti a toujours su se remobiliser. Il est au micro de Vaïté Oulali Pambrin.
Aujourd'hui, les choses sont bien claires. D'un côté, nous avons le Tahura Huratira avec les personnes qui ont décidé de rester et ceux qui ont décidé de partir. Par contre, nous devons bien sûr continuer notre travail sur le terrain et expliquer aux nos militants que la ligne du Tahura Huratira n'a pas changé.
Est-ce que le Tahurai a perdu beaucoup de plumes?
Certains nous ont quittés, d'autres nous ont rejoints. Le parti a toujours su se remobiliser et faire campagne auprès des électeurs pour réclamer à nouveau leur confiance. Donc, bien sûr que c'est venu un peu bouleversé et je reconnais que nos militants ont été très perturbés.
Si dissolution il y a demain, comme on entend dire beaucoup en ce moment, est-ce que le Tahura est prêt?
Le Tahura a toujours été prêt à affronter des élections, quand bien même ce sont des élections majeures. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour prononcer une dissolution de l'Assemblée et de la Polynésie française? Je ne pense pas.
Et vous pensez quoi si dissolution il y a?
Pour ma part, je veille quotidiennement au bon fonctionnement de l'institution de l'Assemblée et de la Polynésie française. Et c'est tout ce qui m'intéresse et rien d'autre.
Reste que le principal sujet abordé au cours de ce déjeuner concernait les relations de l'Assemblée avec la présidence. Marcel Touyani se défend de tout blocage, mais explique qu'il ne reçoit pas les textes à temps pour les examiner sereinement. Marcel Touyani qui parle également d'un manque de respect envers les élus.
Lorsque j'évoque ce manque de respect, encore une fois, je mets le doigt sur les textes les plus importants. Parlons par exemple du schéma d'organisation sanitaire. J'ai pu constater il y a quelques semaines que un média de la place a pu se procurer ce document. Sachez en tous les cas que lorsque j'ai pris connaissance au travers de ce média, de ce magazine, l'élaboration de ce schéma d'organisation sanitaire, j'ai tout de suite invité le gouvernement, j'ai saisi le président du gouvernement de bien vouloir transmettre ce document aux élus de l'Assemblée. Donc j'attends tout simplement que cette transmission puisse se faire dans les règles, je dirais, prévues pour le fonctionnement de nos institutions.
Alors, pas de blocage, c'est ce qu'on verra ce matin à l'Assemblée.
En effet, les représentants devront se prononcer ce matin sur le cadre juridique qui encadre le futur schéma directeur des transports interinsulaires. Un texte déjà retoqué à deux reprises, mais qui cette fois devrait passer grâce à 5 amendements portés par le gouvernement. Marcel Touyani a expliqué ce revirement hier midi en prétextant que les précédentes versions ont été présentées d'une manière précipitée. Là encore, il assure que les élus Tawera n'étaient pas dans une démarche de blocage. Marcel Touyani qui affirme que les amendements déposés par le gouvernement et sa majorité démontrent justement la précipitation dans ce dossier. Le Tawera qui consent maintenant à voter donc avec le Tapura et ATP. L'UPLD de son côté devrait s'abstenir.
Le projet aquacole de Hao a été jugé catastrophique pour l'environnement.
C'est ce que pointe du doigt la délégation sénatoriale à l'Outre-mer qui a vivement critiqué l'impact de ce projet dans un rapport de 77 pages publié vendredi. Un rapport qui s'intéresse à l'adaptation au dérèglement et au réchauffement climatique des politiques publiques menées outre-mer. Et ce, à quelques mois de la COP21. Ce rapport met en exergue les projets innovants ou emblématiques, mais les rapporteurs s'interrogent sur l'impact potentiellement négatif de certains grands projets de développement récemment lancé en Polynésie française. C'est le cas du projet chinois de ferme aquacole sur l'atoll de Hau-Otuamotu. Les rapporteurs considèrent que la production de 50 000 tonnes de poissons d'élevage risque d'être assez catastrophique pour l'environnement.
Des critiques contestées par les sénateurs polynésiens.
En effet, Nuolore et Lana Tetuanui ont réagi à l'article publié hier matin sur notre site internet à propos de ce rapport d'information de la Commission de l'aménagement du territoire au Sénat et de la délégation sénatoriale à l'Outre-mer dont ils font partie. Les deux sénateurs reprochent à Radio 1 de ne relever que des propos qui peuvent prêter à polémique dans le rapport d'information. Chacun est dans son rôle, au parlementaire celui de la communication, au journaliste celui de l'information, quand bien même elle représenterait le détail de 9 lignes sur un rapport de 77 pages. Les sénateurs polynésiens contestent également le fait que la délégation sénatoriale à laquelle ils appartiennent ait pu vivement critiquer le projet aquacole de Hau. Pour être précis, les critiques sont issues d'un rapport d'information fait au nom de leur délégation sénatoriale, mais ils ressortent effectivement que de l'analyse du directeur de recherche à l'IRD. Enfin, le cœur des propos des sénateurs est de contester le chiffre de la production de la future ferme de Hau avancé par ce même directeur de recherche, 50 000 tonnes. Or, dans un article détaillé consacré à cette question, Tahiti Info a relevé lundi que ce même chiffre de 50 000 tonnes de poissons d'élevage pour la ferme de Hau avait pourtant toujours été avancé à la fois par le gouvernement et par les investisseurs chinois.
Environnement toujours, avec le PIU qui plaide pour la création d'aires marines protégées pour limiter la surpêche.
Le cluster maritime de Polynésie française organisait son premier Buffett Networking au sujet de la pêche hauturière lundi midi à la gare maritime. L'ONG PIU, héritage mondial des océans, a accueilli cet événement. L'occasion de faire le point sur un axe majeur de l'économie maritime, la pêche durable. Paul-Roger de Villiers est spécialiste en développement. Jérôme Petit est le directeur de PIU Polynésie. Tous deux sont les auteurs du rapport sur les stocks halieutiques, la pêche hauturière et la conservation en Polynésie française. Pour Paul-Roger de Villiers, le modèle de pêche locale est bon. Il note qu'il faut conserver notre zone économique exclusive libre de tout accès aux autres pêcheries afin qu'elle puisse servir de réserve à Tahiti. Il est au micro de Valentine Bluet.
Puis le germont, qui est le thon blanc, c'est une espèce pour laquelle la ressource est considérée encore comme bonne. Si les pêcheurs veulent en pêcher plus, et ben peut-être qu'à un moment, ils vont avoir des rendements inférieurs à ce qu'ils ont, et donc il y a des entreprises de pêche qui risquent de tomber en faillite s'ils pêchent pas autant qu'avant. Je crois qu'il faut pas penser qu'on va doubler ou tripler les prises qu'on va faire. On peut peut-être le faire pendant un an, deux ans, trois ans, et puis on va s'apercevoir que les rendements vont tomber à zéro. C'est-à-dire que non seulement il n'y en aura pas pour l'exportation, mais à un moment, on risque de ne plus en avoir pour nous-mêmes, pour manger en Polynésie. Ce serait quand même dommage.
Les deux spécialistes recommandent donc la mise en place d'aires marines protégées pour conserver 30% des écosystèmes marins, une zone où la pêche serait interdite, comme nous le précise Jérôme Petit.
Alors, une aire marine protégée est une zone marine qui est reconnue juridiquement comme une zone dont la première vocation est la protection de la nature ou la conservation des stocks halieutiques, par exemple. Donc, c'est une zone dans laquelle la pêche industrielle n'est pas permise, mais l'idée est bien entendu de faire des aires marines protégées pour la pêche à l'extérieur de ces zones, c'est-à-dire qu'à travers un processus de débordement, il y a des poissons qui vont aller dans les zones qui sont pêchées. Et les premiers bénéficiaires des aires marines protégées, ce sont bien entendu les pêcheurs.
Et pour le directeur de PIU, les aires marines protégées existent déjà de façon implicite en Polynésie de par les différentes zones de pêche qui ne sont pas utilisées.
Alors, la Polynésie a actuellement une grande zone qui n'est pas pêchée. Il y a environ 3 millions de kilomètres carrés qui ne sont pas encore pêchés. Ce sont déjà quelque part des aires marines protégées de facto. Elles sont encore vierges. Et on aurait la possibilité de simplement les reconnaître officiellement comme des zones de protection pour pouvoir déjà faire en sorte qu'elles restent conservées et protégées sur le long terme. Et donc pour pouvoir développer une filière de pêche durable en Polynésie. Mais aussi pour pouvoir bénéficier de la notoriété internationale, de la reconnaissance que peuvent avoir ces aires marines protégées et développer notamment la valorisation de la culture locale, l'écotourisme, le développement des territoires, des archipels, etc.
Et en plus des aires marines protégées, le rapport de PIU recommande la mise en place d'autres dispositifs pour mettre fin au problème de la surpêche, comme un quota pour la zone pacifique ou la limitation de l'activité des senneurs qui pêchent les jeunes poissons.
Éducation pour terminer avec une certification en anglais spéciale pacifique dispensée à l'ICEP.
L'ICEP sera pour la première fois le centre d'examen officiel de l'International English Language Testing System. Cette certification s'adresse aux étudiants désirant poursuivre leurs études dans les pays anglophones du Pacifique comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Mais elle s'adresse aussi aux professionnels dans le cas d'une reconnaissance de niveau pour certaines fonctions. À la différence du TOEFL et du TOEIC, l'IELTS est spécifique au Pacifique. Il ne s'agit pas d'un concours, mais d'un examen qui détermine un niveau en fonction des réponses données. Les explications de François Seize, formateur et responsable du dispositif à l'ICEP. Il est au micro de Valentine Bluet.
C'est un examen qui teste les quatre compétences de base qui sont l'expression écrite et l'expression orale et la compréhension orale et la compréhension écrite. Et donc il y a quatre tests qui portent sur ces quatre compétences et qui sont donc évalués par un examinateur qui vient spécialement de Nouvelle-Zélande à un moment donné lorsqu'on fixe la date du test. Pour que les étudiants soient bien préparés et obtiennent le score maximum à ce test, ils ont besoin d'une préparation. Donc c'est pourquoi l'ICEP organise une préparation à ce test, pour que les étudiants obtiennent vraiment le niveau qui leur garantit soit une admission dans une université, soit une promotion professionnelle.
La préparation se déroule sur 15 semaines à raison de 2 heures chaque jeudi de 16h30 à 18h30 afin de permettre aux professionnels d'y assister. Les cours débuteront le 5 novembre pour un examen en mars 2016. Les élèves y apprendront les bases, mais surtout comment répondre aux questions de l'examen.
Nous apprenons aux élèves la façon dont il faut répondre en général aux questions qui sont posées à l'IELTS parce que l'IELTS c'est un format. Et une manière d'évaluer. Donc il faut préparer les candidats pour qu'ils puissent apporter les réponses attendues. Donc en fonction justement des tests qui sont proposés. Donc c'est de l'anglais général mais ciblé sur ce qui est attendu au test.
Voilà, une formation et un examen qui ne sont pas gratuits. Il vous en coûtera 50 000 francs pour l'inscription à la préparation de IELTS. Pour les examens, les inscriptions se feront auprès de la English Language Academy d'Auckland au prix de 33 800 francs. Voilà, et pour tous les renseignements sur les inscriptions, les tarifs et les contacts, vous pourrez les retrouver sur notre site internet au www.radio1.pf.
Retrouvez l'info en continu
Radio 1.
Sur radio1.pf.